vous l'entendez, il est 13h sur France Inter. Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. La République rend hommage aux combattants du plateau des Glières. Plus d'une centaine de résistants tués au combat ou fusillés en 44. On n'oublie rien de votre sacrifice et de votre leçon de courage, a lancé ce matin le chef de l'État. Le ministre de la Culture, pas d'accord avec son collègue des comptes publics sur la redevance. On en parlait à l'instant dans Questions politiques. Gérald Darmanin proposait de la supprimer. Franck Riester répond qu'il faudra la remplacer par autre chose. Le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales à 2 mois des européennes. On peut encore aller sur internet service-public.fr jusqu'à ce soir minuit. Dans ce journal également, l'Ukraine, toujours en guerre civile à l'Est, élit un président. Le sortant Porochenko, devancé dans les sondages par un comédien sans expérience politique. L'ex-président Lula, toujours à l'isolement au Brésil, un an après son emprisonnement. C'est le droit de suite de ce dimanche 13h où en est la gauche brésilienne au pays de Bolsonaro. Et puis en sport, la fête à Strasbourg tout à l'heure pour accueillir la Coupe de la Ligue. Un duel franco-français en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Racing Toulouse à la Arena Paris La Défense.
France Inter.
La fin de la trêve hivernale est le début d'une longue période de stress pour les familles en difficulté. Une expulsion redevient possible dès demain pour celles qui ne peuvent plus payer leur loyer. Après 5 mois de répit, elles sont à nouveau sous la menace d'une saisie d'huissier ou d'une intervention de la force publique. Des expulsions qui sont toujours plus nombreuses d'année en année, 46% de plus. Ces 15 dernières années, plus de 120 000 procédures en 2017 pour un peu plus de 15 000 expulsions, dernier chiffre connu. Situation insupportable évidemment pour les associations qui défendent le droit au logement, ou en l'occurrence au relogement. Et c'est ce qu'a voulu souligner ce matin la Fondation Abbé Pierre devant le ministère, Béatrice Duguay.
Un paillasson géant déployé devant ce bâtiment cossu du 7e arrondissement de Paris. Paillasson à message, bien sûr.
Il dit en gros, bienvenue dans la rue, qu'à partir de d'aujourd'hui, qui est la date de la fin de la trêve hivernale, plus de 30 000 personnes sont menacées d'être expulsées et de vivre dans la rue pour le restant de l'année.
Depuis 10 ans, la Fondation estime que l'équivalent d'une ville comme Montpellier a été mise à la rue. Ce 31 mars, le scandale, l'absurdité politique recommence, dit Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre.
L'expulsion, c'est un traumatisme pour les familles qui les subissent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent chez vous et qui vous mettent dehors. Donc pour les enfants, pour les parents, pour les personnes isolées, c'est une violence psychologique extrêmement forte. Ce n'est pas des personnes de mauvaise foi, c'est des personnes qui sont touchées par la crise économique. Ce n'est pas que les personnes sont des mauvais payeurs, qui préfèrent se payer des écrans plats, ça c'est le fantasme qu'on a parfois.
Aujourd'hui, la Fondation réclame un plan d'urgence à 100 millions d'euros pour renforcer, 1, le fonds de solidarité logement qui permet de rembourser les dettes tout en maintenant les ménages dans leurs appartements, 2, le fonds d'indemnisation des bailleurs qui a été divisé par 3 en 10 ans, et enfin 3, l'accompagnement juridique des personnes, explique Marie Rotan, juriste à la Fondation.
Quand on se retrouve confronté à une procédure d'expulsion, on ne sait pas vers qui se tourner, on reste souvent seul, isolé, et là c'est l'expulsion presque assurée.
Parmi les causes identifiées qui mènent à l'expulsion locative, la perte d'emploi, la maladie, la rupture familiale, le décès d'un conjoint par exemple, accident de la vie dont peu de gens après tout sont vraiment à l'abri.
Et cette fin du mois de mars marque aussi la fermeture des hébergements d'urgence, ouverts pendant l'hiver mais pas tous. Le ministère du Logement précise que 6000 places supplémentaires, dont 1400 à Paris, allaient être pérennisées, portant à 145 000 les hébergements ouverts toute l'année. Les chasseurs alpins dans leur uniforme blanc, des anciens combattants, des enfants, le chant des partisans et bien sûr les élus de la République. C'était ce matin sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, la commémoration du 75e anniversaire des combats au cours desquels plus d'une centaine de maquisards avaient été tués par les Allemands et les miliciens français. 105 de ces résistants sont inhumés sous la nécropole nationale de Morette, où le président de la République leur a rendu hommage. Emmanuel Macron, venu de Paris en compagnie de Nicolas Sarkozy, lequel s'était lui-même rendu aux Glières chaque année de son quinquennat. Yannick Falt, vous êtes aux Glières.
Emmanuel Macron débute son discours par un « Monsieur le Président de la République » à Nicolas Sarkozy, tout sourire, allocution très solennelle marquée par 2 étranges détonations sur la montagne en face, détonations qui n'étaient pas prévues et alors que la chasse est fermée dans le département. Discours d'un quart d'heure du chef de l'État qui a donc rendu hommage aux résistants du plateau des Glières.
Lieutenant Morel, capitaine Angeau, tous ceux des Glières, rassemblés par un même élan patriote, rapprochés par le fracas des combats, unis en ce cimetière par le silence glaçant de la mort.
Emmanuel Macron qui est arrivé dans cette nécropole nationale de Morette sous un ciel radieux. Passage en revue des troupes, recueillement devant les tombes des maquisards, puis cérémonie aux côtés de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État sur sa droite dans la tribune officielle pour écouter différentes allocutions avant la sienne. Celle du président de l'association des Glières, puis les évocations religieuses, juives et chrétiennes, religion des maquisards morts au combat. Avant des paroles d'enfants, 7 élèves qui ont lu des textes préparés avec leur classe.
Hier, des hommes et des femmes ont dit non à la défaite. Non à l'occupation allemande, non aux discriminations. Aujourd'hui, nous disons non aux guerres dans le monde.
Et des enfants, il y en avait environ 400 ce matin qui ont entonné le chant des partisans.
Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
Une cérémonie retransmise sur écran géant. À noter que quelques gilets jaunes sans gilet ont tourné le dos à cet écran et donc à Emmanuel Macron en signe de protestation.
Yannick Falt au Glières avant Emmanuel Macron ce dimanche et Nicolas Sarkozy. Donc François Mitterrand était venu sur ce plateau des Glières en avril 94 pour le 50e anniversaire des combats. Les Glières et les présidents, c'est un dossier à consulter sur franceinter.fr. Quel avenir pour la redevance? Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait relancé le débat en proposant de supprimer purement et simplement cette taxe de 139 euros actuellement adossée à la taxe d'habitation et que paient les contribuables déclarant une télévision. Pas si simple, a répondu ce matin son collègue de la culture, Franck Riester, pour qui les Français doivent continuer à financer le service public de l'audiovisuel d'une façon ou d'une autre.
La question ne peut pas se poser simplement comme ça.
Bah c'est comme ça qu'il la pose, Gérald Darmanin.
Oui, c'est le citoyen Darmanin qui la pose comme ça. Donc moi, je vais essayer de vous répondre en ministre. Est-ce que oui ou non, on a besoin d'un audiovisuel public fort dans le pays? La réponse est oui, trois fois oui, et plus que jamais. Et donc, on doit, pour avoir une ambition forte, avoir des moyens en conséquence. Et il se trouve que techniquement, il y a la suppression de la taxe d'habitation sur laquelle est adossée la redevance. Et donc, il faut bien imaginer un dispositif qui va permettre de maintenir les financements pour l'audiovisuel public.
Ça pourrait être quoi ?
Ce débat est ouvert. Ça peut être la redevance adossée sur l'impôt sur le revenu, sur d'autres taxes. Ça peut être différents types de financements.
Ça s'appelle comment ?
Je ne vais pas vous répondre maintenant puisque je vais prendre avec mon collègue du budget, le Premier ministre et le Président de la République qui trancheront in fine la décision qui permet ça. Quel que soit le système, bien évidemment qu'à partir du moment où c'est de l'argent public, les Français paieront. Il ne faut pas être ni démagogue, ni dupe de rien.
Franck Riester, ce midi sur France 3. Encore quelques heures pour s'inscrire sur les listes électorales pour le scrutin européen du 26 mai. On peut encore aller sur Internet jusqu'à minuit, à condition bien sûr d'être citoyen français ou européen et d'être âgé d'au moins 18 ans. C'est la première fois qu'une inscription est ainsi permise, 2 mois seulement avant l'élection. Il faut dire quand même que pour le dernier jour, hier en mairie, il n'y avait pas foule comme ici, à Nîmes, Julie Munch.
Passeport et justificatif de domicile dans les mains, Samia arrive dans un petit bureau à l'étage de la mairie. Elle vient du Maroc. Après le déballage des cartons, la priorité, c'est maintenant les élections.
Ah bah, c'est un devoir de citoyen de voter. C'est hyper important pour nous parce qu'on fait partie de l'Union européenne. Donc on a envie d'être représenté par les bonnes personnes. Et puis dans le climat actuel, c'est encore plus important. Après, on ne se sent pas forcément représenté par tous les partis politiques, mais ça n'empêche pas quand même de donner sa voix.
Pourtant, aucune file d'attente pour s'inscrire au guichet d'à côté, Hans Fetti, 22 ans, est assez surprise.
Je m'attendais à avoir plus de personnes. Pour moi, c'est important de voter. Je pense que ça devrait être important pour tout le monde.
La faute au type de scrutin. Seuls 70 inscrits par jour à Nîmes, juste avant la clôture. C'est 5 fois moins que pour une élection présidentielle, par exemple. Pourtant, la démarche est simple. 10 minutes après son arrivée, Samia repart déjà.
C'était rapide, parfait. Ça fait pas mal du tout. Je vous assure, c'est indolore. C'est très bien. Il faut le faire.
Prochaine étape, le bureau de vote. Samia recevra sa carte d'électeur dans sa boîte aux lettres fin avril.
Mais pour cela, encore faut-il s'inscrire. C'est donc jusqu'à ce soir sur internet service-public.fr.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
À l'étranger, en Ukraine, le prochain président sera-t-il un comédien sans expérience politique? Si le résultat du premier tour de la présidentielle ce dimanche confirme les enquêtes d'opinion, alors oui, Volodymyr Zelensky, 41 ans, vedette d'une série télévisée, sera élu. Le comédien qui profite de la déception des Ukrainiens pour leurs élites, éclaboussées par des scandales de corruption, devance très largement le président sortant, Petro Porochenko, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, Claude Brouillot à Kiev.
La réforme du système de santé, de l'éducation, la modernisation de l'armée, une politique de visa ouverte vers l'Ouest, la partie positive du premier quinquennat de Petro Poroshenko aurait dû lui éviter de se retrouver aujourd'hui dans l'incertitude. La faute à des affaires de corruption qui l'ont obligé récemment à couper les ponts avec certains de ses proches. Pour autant, Petro Poroshenko pourrait finalement compter sur des suffrages de dernière heure grâce à son expérience d'homme d'État, selon Tetiana Ogarkova, coordinatrice du Media Center ukrainien de Kiev.
La grande majorité de ceux qui vont voter Poroshenko, ce sont les gens qui votent pas pour lui, mais qui votent contre les candidats qui sont pires que lui. Qui votent pour sauvegarder ce qu'on a aujourd'hui, malgré tous les problèmes qui sont là, et pour pas prendre le risque avec le candidat le plus populaire, M. Zelensky, est énorme, le risque de l'inconnu. Et donc Poroshenko, bien qu'il n'ait pas du tout aimé dans le pays, la grande majorité de ceux qui vont voter Poroshenko, ce sont les gens qui votent pour éviter le pire.
Même en cas de qualification pour le deuxième tour de la présidentielle le 21 avril prochain, la partie restera difficile pour Petro Poroshenko. Le président sortant devra alors ratisser le plus largement possible parmi les voix des principaux battus du premier tour, et cela en moins de 3 semaines. Kiev, Claude Bruyot, France Inter.
L'Ukraine qui reste au cœur des tensions Est-Ouest avec toujours à l'Est la région du Donbass aux mains des séparatistes soutenus par Moscou. En Slovaquie, c'est une femme, une avocate libérale, Zuzana Kaputova, qui remporte la présidentielle, militante anticorruption. Elle recueille plus de 58% des voix. À suivre aussi ce dimanche les municipales en Turquie, où le parti du président Erdogan pourrait perdre des grandes villes et pas des moindres. Ankara ou Istanbul, c'est en tout cas là aussi ce qu'indiquent les sondages. Une des fêtes de l'AKP qui tient ces deux mairies depuis 25 ans serait un événement et sonnerait comme un avertissement pour le pouvoir. Georges Clooney fait des émules. Son appel à boycotter les palaces appartenant au sultan de Brunei a reçu le soutien du chanteur britannique Elton John, lequel a salué sur Twitter l'initiative de l'acteur américain contre la discrimination anti-gay et le sectarisme du richissime petit état pétrolier. Elton John, qui a épousé son compagnon en 2014, ajoute avoir appliqué ce boycott des palaces de Brunei depuis longtemps déjà. C'était il y a un an, quasiment, le 5 avril 2018 au Brésil. L'ancien président Lula, alors en tête des sondages, était mis en prison pour corruption. Une décision qui devait bouleverser le cours de l'histoire dans ce pays continent où un candidat d'extrême droite l'a finalement emporté. Un an après, Lula est toujours à l'isolement dans sa prison de Curitiba, mais la gauche, un peu désemparée, ne l'oublie pas. Et ce mois d'avril, les militants de son parti doivent lancer une campagne internationale pour sa libération. C'est le droit de suite de ce journal Anne Vignat à Rio.
C'est une assemblée ordinaire des professeurs de Rio, mais comme souvent depuis un an, c'est le visage de Lula qui est sur toutes les banderoles. Ici, on parle autant éducation que de la prochaine campagne mondiale pour la liberté de Lula, à laquelle Christiane va participer.
J'ai pris la peine d'écouter toutes les séances du procès de Lula. Il n'y a pas de crime. Et s'il n'y a pas de crime, il n'y a aucune raison pour que cet homme soit en prison. Il est en prison pour une raison. Il est le plus grand dirigeant populaire que le Brésil ait jamais eu.
Sylviane, professeur d'anglais, insiste sur la partialité du juge Moro qui a condamné Lula pour ensuite devenir l'un des plus importants ministres du gouvernement de Bolsonaro.
Lula n'a pas de compte en Suisse. Il vit au même endroit depuis 20 ans. Alors que nous voyons que d'autres politiques ont volé et nous avons des preuves concrètes comme des valises d'argent. Eux sont libres. Il est devenu très clair aujourd'hui qu'il s'agissait d'une persécution politique et d'une prise du pouvoir de ceux qui ont arrêté Lula.
Et pour l'avocat de Lula, Cristiano Zanin, il s'agit aussi d'une persécution politique.
L'ancien président Lula est en prison depuis près d'un an. Lula vient également d'être à nouveau condamné en première instance et il est poursuivi dans d'autres procès, tous basés sur des accusations frivoles et sans preuve matérielle. Tout cela fait partie d'un phénomène qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation perverse des lois à des fins de persécution politique.
Le sort de Lula semble en effet dépendre beaucoup de la situation politique de son pays. Et avec Jair Bolsonaro au pouvoir, la gauche a peu d'espoir de le voir sortir de prison. Rio de Janeiro, Anne Vignat, France Inter.
En Algérie, un homme d'affaires proche du président Bouteflika, arrêté la nuit dernière à un poste frontière avec la Tunisie, l'ex-patron des patrons algériens, Ali Haddad. C'est la chaîne d'information propriété de son groupe médiatique qui confirme cette information. La France, qui de son côté a salué le civisme remarquable des Algériens suite aux manifestations de ces dernières semaines, faisons 10 ans faire confiance d'ailleurs au peuple algérien, mais ces déclarations du ministre Jean-Yves Le Drian, faites vendredi, n'ont pas plu justement à ces mêmes manifestants. La France est restée très silencieuse. Emmanuel Macron avait appelé simplement à une transition d'une durée raisonnable, si possible. Mais les Algériens pensent qu'ils ont appris à lire entre les lignes des communiqués officiels. Et aujourd'hui, eh bien, ils appellent la France à renoncer à ses liens avec le pouvoir en place à Alger. Mathilde Doémy.
Plusieurs slogans demandent la fin de l'ingérence française. Ami d'anciens cadets de la Révolution en est persuadé. La France veut maintenir en place le pouvoir actuel par intérêt.
Il a beaucoup plus de bénéfices avec qu'un nouveau pouvoir qu'il ne connaît pas. Je dis que M. Emmanuel Macron s'occupe d'abord des gilets jaunes, qu'il règle leurs problèmes et puis on discute d'égal à égal, pas d'ingérence.
Le peuple veut une souveraineté pleine et entière, insiste le colonel à la retraite Ramdan Mamlat, un temps candidat à l'élection présidentielle.
Le peuple a décidé d'aller jusqu'au bout, de dire à Bouteflika stop, c'est bon, c'est fini, et pour toi et pour ta France.
Et c'est au peuple, dit Ramdan Mamlat, de décider des rapports avec son ancienne colonie.
On est là pour dire à la France aussi, stop, on n'a plus besoin de vous. Si vous nous considérez comme des citoyens algériens qui réclament leurs droits dans leur pays, et vous aidez ce peuple à réaliser ses rêves, soyez les bienvenus. Si c'est le contraire, on n'a plus besoin de la France qui profite des richesses de l'Algérie et son contrepartie.
Des richesses comme le gaz naturel, rendez-le-nous, disent les manifestants, écho à une supposée gratuité du gaz algérien pour la France, rumeur pourtant démentie par les autorités. Alger, Gilles Gallinaro, Mathilde Doémy, France Inter.
En sport, la fête tout à l'heure à Strasbourg après la victoire hier face à Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue. 4-1. Il y avait 0-0 à l'issue des prolongations. Bon, le spectacle n'a pas été grandiose, mais c'est le résultat qui compte, diront les supporters qui sont invités d'ailleurs à se rassembler place Kléber à Strasbourg donc dès 16h30 pour accueillir et l'équipe et la Coupe. Eric y sera sûrement. Eric, qui fait partie de ces supporters strasbourgeois, interrogé hier soir à l'issue du match.
C'était une journée parfaite, avec le voyage, etc. Donc la journée se termine parfaitement. Le stade était bleu. Ligourou a fait un très grand match. Il a été élu l'homme du match et il le mérite. Parce qu'on était loin de dominer, enfin c'était pas un beau match à voir. Mais à la fin, finale, ça se joue pas, ça se gagne.
Exactement.
C'est une saison particulière, c'est le renouveau, etc. Donc il fallait être là pour eux. Même s'ils avaient perdu, c'était pas grave, fallait être là pour eux. Et ils ont gagné, voilà. Et c'est le principal. Voilà. C'est pas jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, ouais, donc c'est une très très bonne nouvelle. En tant que supporter, on n'a jamais vraiment douté. Hein. On pensait vraiment qu'on allait y arriver. Pas aussi vite, mais on savait qu'on allait arriver à remonter quelque chose.
Merci les Bleus, merci les Bleus, merci. Merci les Bleus, merci les Bleus, merci.
Voilà les Bleus de Strasbourg, bien sûr, au micro de France Bleu Alsace. L'affiche en sport ce dimanche, c'est du rugby avec le duel franco-français de la Coupe d'Europe. Quart de finale, Racing 92 Toulouse à l'Arena de Paris La Défense. Deux poids lourds du top 14, dont les Toulousains sont d'ailleurs actuellement les leaders. Deux équipes qui plus est portées à l'offensive et qui marquent beaucoup d'essais. C'est donc un choc qui devrait faire des étincelles. Jérôme Val.
Le Racing 92 est inarrêtable en championnat. 72 essais marqués en 20 matchs, presque 4 essais en moyenne par rencontre. Mieux encore, les 3 meilleurs marqueurs d'essais du championnat jouent au Racing du jamais vu. Et c'est aussi vrai en Coupe d'Europe. Le club ciel et blanc a marqué 26 essais en 6 matchs, notamment sur la surface synthétique de l'Arena de Paris La Défense. Le demi-mêlé Maxime Machno.
C'est une surface particulière qui favorise la vitesse de jeu et qui, au contraire, au niveau défensif, c'est la moindre erreur peut se payer cash. On commence à s'y habituer, ça fait un an et demi qu'on y joue et on s'y sent plutôt bien.
Et c'est une chance pour ce quart de finale. Toulouse aussi est adepte d'un rugby offensif au point d'être invaincu depuis 14 matchs. L'ailier Sofiane Guitoun.
J'espère que l'enjeu ne va pas prendre le pas sur le jeu et qu'on va pouvoir faire ce qu'on fait depuis le début de saison et continuer à envoyer du jeu, prendre du plaisir. De toute façon, c'est comme ça qu'on gagne, qu'on sait faire.
Toulouse et ses 4 titres européens, le Racing 92 au palmarès vierge sur le continent. Ce quart de finale devrait tenir toutes ses promesses.
Racing Toulouse, coup d'envoi à 16h15.